Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Suicide, dépression, démission. Depuis déjà quelques années, l'ONF souffre d'une maladie destructive, loin des regards, en silence. En cause, l'ultra-productivisme, la surexploitation, une mécanisation ravageuse, la quête de rentabilité au mépris des besoins de la nature. Alors que nos sociétés se gargarisent de sylvothérapie, que les ventes de livres vantant les bienfaits des arbres et leurs secrets explosent, aurions-nous finalement totalement rompu nos liens avec les bois ? Nos forêts françaises ne sont-elles devenues que des gisements à exploiter ? Les technocrates ont-ils remplacé les bûcherons ? Face au drame qui se joue, des gardes forestiers tentent de s'élever contre les financiers et la déraison de la politique menée sur le terrain et d'interpeller l'opinion publique, espérant encore sauver les forêts françaises d'une standardisation potentiellement mortelle. Faut-il protéger la forêt contre l'ONF ? Réponse avec Gaspard Dalins. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et auteur du livre « Main basse sur nos forêts », un livre édité au Seuil. À vos côtés, Philippe Canal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel. Et avec nous également, Rémi Barou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire. Et puis en seconde partie d'émission avec vous, on parlera aussi d'un projet de super transformateur qui met le Sud Aveyron en émoi. L'ONF, un service public qu'on abat, point d'interrogation. C'est la question du jour dans cette émission préparée par Anaï Morales avec Anne Gouzon, Valérie Ernoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka. Je précise aussi que nous avons une petite stagiaire, Maë Alliot, à nos côtés et à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. Bonjour à tous et bienvenue.
Alors, j'en suis 31 ans de bûcheronnage et toujours aussi heureux. Parce qu'on peut dire que je suis heureux dans les bois. C'est pour ça que j'abandonne pas ce métier. Je fais de la fuste aussi, mais je garde quand même ça l'hiver. J'aime bien me retrouver dans les bois tout seul, en pleine nature, surtout des journées comme aujourd'hui. C'est très agréable. C'est pas tous les jours comme ça. Il faut quand même le reconnaître.
Est-ce qu'il y a des choses qui te pousseraient à abandonner ?
Le physique, forcément. À partir d'un certain âge, c'est le plus dur. Les côtes, les descentes, le poids de la tronçonneuse. Oui, non, bien sûr. De toute façon, c'est le physique qui me fera abandonner. Si je pouvais faire ça jusqu'à la fin, quel bonheur d'être ici, tout seul, au calme. Surtout dans cette société de merde, quoi. Moi, je trouve que c'est encore un des derniers endroits où on est tranquille, quoi. C'est la forêt, la nature, ce qu'il en reste.
Voilà, c'était un extrait du film Le Temps des Forêts, film de François-Xavier Drouet, bûcheron, un beau métier. Vous-même, Philippe Canal, vous avez embrassé ce métier au cœur de l'ONF. En quelle année ?
En 1995, donc assez tardivement, à 30 ans, j'ai décidé de changer de vie et d'aller dans la forêt, y travailler et puis faire en sorte de la protéger et de la laisser en meilleur état encore qu'on l'a trouvé aux générations futures.
Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque ?
Un peu tout, ouvrier spécialisé, déménageur, employé de banque, animateur pour enfants. Voilà.
Et les forêts, donc ça vous attirait, parce qu'il faut quand même avoir cette passion, on imagine.
Oui, c'était un rêve depuis longtemps, à part qu'à un moment donné de sa vie, on se dit, voilà, c'est inaccessible, il y a très peu de place. Et puis un jour, on se dit, on s'en fout, on y va, on essaye, c'est ça qu'on veut faire. Quoi.
1995, quelle était la politique de gestion de ces forêts déjà à l'époque ?
Bien, à l'époque, on était un office national des forêts vraiment sur le mode service public, c'est-à-dire qui réfléchit son action dans l'intérêt et la conservation de la forêt, et aussi sur les conséquences que ça pouvait avoir autour de l'ONF pour l'ensemble de la société, donc le monde économique, bien sûr, mais aussi tout ce qui était scolaire, initiation à l'environnement, protection, le développement local. Et avec, au terme de toutes ces années, aujourd'hui, il y a un virage qui a quand même été pris pour aller vers une culture d'entreprise qui réfléchit son action par rapport à ses intérêts propres. Donc une profonde perte de sens, oui.
Gaspard Dalins, ces bûcherons, vous êtes allé à leur rencontre. Alors dites-nous concrètement, vous avez arpenté quel type de forêt en France pour votre enquête ?
Alors, je suis parti plusieurs mois, notamment cet automne, dans plusieurs massifs forestiers français, notamment le Limousin, qui est en, on voit vraiment de transformations, notamment avec beaucoup de monocultures résineuses, le Morvan aussi, dans les Landes, voir les forêts qui étaient en pleine mutation en fait. Notamment dans le Morvan, on peut dire que dans les années 70, il y avait 25% à peine de forêts résineuses, de sapins, de douglas, et aujourd'hui, on a même arrêté les statistiques, c'est-à-dire qu'à partir de 2002, à partir du moment où il y a eu 50% de forêts résineuses, il n'y a plus de statistiques, mais on sait très bien que maintenant, les forêts résineuses sont, et les monocultures sont majoritaires en fait dans la forêt du Morvan. Donc c'est toutes ces métamorphoses-là qui m'ont beaucoup intéressé, à l'image de ce qui se passe dans l'agriculture intensive en fait. Il y a les mêmes mécanismes, on va dire productivistes, qui se jouent dans les forêts et dans l'agriculture, quoi. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de révéler et de montrer à quel point ces forêts étaient devenaient des champs d'arbres que l'on moissonnait comme du blé, quoi.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette enquête précisément ?
Bon, moi, j'ai toujours grandi près d'une forêt, la forêt de Fontainebleau, et ce qui m'a marqué en fait quand j'étais jeune, c'était de voir aussi que avant, c'était une forêt peut-être habitée. Enfin, il y avait des restes d'habitat, notamment de carriers qui ont beaucoup vécu au 19e siècle dans la forêt de Fontainebleau. Il y avait 2000 carriers qui étaient là pour faire les pavés parisiens ou les pavés des villes alentours. Et c'était de sentir que, à une époque, on n'était pas dépossédé de notre forêt non plus. Il y avait une forêt qui n'était pas juste foris, comme on dit dans l'étymologie latine, c'est-à-dire en dehors, en fait. Il y avait les gens peuplés ou habitaient une forêt ou étaient en lien avec elle. Et nous, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'exode rural, mais il y a aussi eu un exil forestier, quoi. Il y avait 50 métiers au début du siècle sur les forêts. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus qu'un, ça s'appelle coupeur de bois, quoi. Mais je caricature un peu, mais ce que je veux dire, c'est que on a été dépossédé d'un pan entier de notre territoire, hein. C'est 30% du territoire français que couvrent les forêts. 16,9 millions d'hectares, et en fait, très peu de personnes savent comment elles sont gérées. Alors on s'émerveille des arbres, on a des livres qui sont, comme vous le disiez, des best-sellers, mais en fait, qu'est-ce qu'on connaît de l'état de santé de nos forêts ? Et en fait, on connaît très peu de choses. Donc c'est ça qui m'a poussé à mener cette enquête, et de dépasser un peu cette idée, l'aridité, on va dire, des rapports et des notes, et aller voir comment des gens vivaient avec la forêt, comment ils étaient attachés à un territoire. Donc c'est pour ça que je suis allé dans le Limousin, dans le Morvan, dans les Landes et aussi en Alsace ou en Lorraine.
À la rencontre de tous ces métiers, parce qu'on parle des bûcherons, il y a le garde forestier, il y a quand même aussi des spécialisations pour faire en sorte que ces forêts françaises vivent, tout simplement.
Et oui, et puis aussi l'économie de la première et de la seconde transformation, qui est aussi, on pourrait le dire, en agonie. Une belle image, c'est de savoir que les cercueils français, il y en a beaucoup qui viennent de Chine, en fait, avec du bois français, mais qui sont fabriqués en Chine. Enfin, non, mais juste, je suis allé voir aussi des scieurs, des menuisiers, des charpentiers. En fait, c'est toute une économie aussi qui se retrouve en difficulté aujourd'hui du fait du productivisme.
Rémi Barou, l'ONF va mal. Son directeur Christian Dubreuil a démissionné en janvier de cette année. On parle des taux de suicide élevés, on va en parler dans l'émission, mais en tout cas, plus de suicides à l'ONF que, dit-on, à France Télécom. Et donc, cette question qui revient sur beaucoup de lèvres, on a été peut-être provocateur dans la présentation de l'émission, mais on parle de protéger la forêt contre l'ONF.
Oui, ça ne va pas faire plaisir à l'ONF, qui se pense et est, d'une certaine manière, le bras armé de la politique publique sur les forêts. C'est vrai que la forêt, c'est compliqué à comprendre, c'est assez facile de se promener dans une forêt, mais peu de Français savent exactement si on est dans des forêts privées, qui représentent la majorité de la forêt française, si on est dans des forêts domaniales, qui appartiennent à l'État et qui sont gérées par l'ONF, ou des forêts communales, qui appartiennent donc aux communes, qui sont aussi très très nombreuses et qui sont aussi gérées par l'ONF. Donc c'est, en termes de gestion, c'est très compliqué. D'abord, c'est un métier quand même qui est passionnant. Je reviens d'un reportage où j'étais il y a deux jours dans des forêts bourguignonnes, puisqu'on va sortir une enquête un peu sur l'ONF. Mais la question quand même qui est vraiment première, c'est qu'on a des gens en face qui travaillent pour l'avenir. Il y a peu de métiers où ce qui est produit, c'est quelque chose qui verra le jour dans 30 ans, dans 40 ans. C'est-à-dire que ce sont des humains qui travaillent vraiment pour l'avenir de la planète. Alors, ils gèrent les stocks aujourd'hui, ils entretiennent, ils ont plein de missions. Mais cette question de préparer l'avenir, je trouve que c'est assez fondamental dans ce métier. Alors, il y a moins de suicides qu'il y en a eu. J'avais fait une enquête dans les années 2010-2011, où là, il y avait eu un taux de suicide important. Aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup moins de suicides. Je connais pas les statistiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup moins, disent les syndicats. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de malaise, puisqu'il y avait trois missions principales pour ces techniciens forestiers et territoriaux, c'est à la fois la gestion de la forêt, qui est donc une gestion en partie économique, il ne faut pas le cacher. Il y a une gestion environnementale de la forêt et il y a une question, on va dire, touristique, sociétale, qui est favoriser l'accueil. Et ces trois missions ne sont plus, disent les agents, et Philippe Canal le dira mieux que moi, ne sont plus vécues comme aussi prioritaires les unes que les autres. La question économique semble l'emporter. Et ça crée un vrai malaise et on a d'une part ceux qui disent il y a une perte de sens et en face un État qui dit il y a une perte d'argent parce que l'ONF est déficitaire.
Et oui, 400 millions d'euros d'endettement est forcément difficile de continuer comme ça.
Voilà. Et du coup, il y a un rapport qui a été commandé, en effet, et un rapport qui doit être rendu prochainement sur quel avenir à l'ONF qui part de la question économique, qui n'est pas forcément le seul prisme au travers duquel il faut étudier la question de la forêt française.
Philippe Canal, sur cette question-là, on disait la souffrance en silence, loin des regards, hein, ça dure depuis longtemps, mais bon, maintenant, effectivement, depuis quelques années, ça sort un petit peu plus, au moins dans la presse, et mis à la connaissance de l'opinion publique. En cause, on parle du Fonds forestier national lancé en 1946.
Le Fonds forestier national, c'est un outil de politique forestière à une époque où l'État faisait encore de la prospective sur le moyen et long terme. Il était estimé qu'à l'horizon 2010-2020, il y aurait un gros déficit en bois de papeterie. Donc une politique pour dire il nous faut planter des essences qui poussent très rapidement, le plus souvent résineuses. Et c'est cette politique incitative qui a conduit donc un massif comme le Morvan à l'enrésiner, c'est-à-dire passer du feuillu indigène au résineux à croissance rapide, la moitié du massif depuis les années 60, quoi. Donc c'est quelque chose qui s'est appliqué à l'ensemble de la forêt française, donc déjà un puissant mouvement d'industrialisation.
Gaspard Dalens.
Oui, il faut voir que le problème de l'ONF remonte à depuis longtemps en fait aussi, parce que il y avait un ver dans le fruit depuis bien longtemps, vu qu'on a conditionné des missions de service public à la question de la rentabilité et de la productivité de ces services en fait. Et service public, c'est pas seulement rentable. Hein. Je me rappelle, un dirigeant de l'ONF disait dans les années 70, il faut créer partout une obsession de la productivité, quoi. Donc on voit bien dans quel modèle on a été, quoi. Et aujourd'hui, ben aussi, il y a une rationalisation des postes, hein, il faut qu'on en parle, c'est sûr, de 15 000 employés à
9 000, je crois, aujourd'hui.
Moins de fonctionnaires aussi, plus de contractuels, enfin vraiment une transformation du métier à partir de 2002 notamment et de certaines politiques publiques qu'on pourrait qualifier de néolibérales. Moi, ce qui me paraît important et pourquoi je soutiens Philippe Canal et les forestiers, on va dire résistants, c'est parce que ils font quelque chose auquel moi je suis très attaché, c'est la question de l'écologie sociale, c'est-à-dire qui relie la question des conditions de travail à la question d'un écosystème ou de la défense d'une entité vivante qu'est la forêt. Et en fait, ils montrent très bien que les deux sont liés, en fait, que les bonnes conditions de travail et la défense d'un bon écosystème, eh ben ça va ensemble. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils sont à l'avant-garde d'un combat qui mérite d'être souligné. Ouais.
Donc, état des lieux, on a bien parlé de ces plantations de résineux, épicéas, mélèzes, pins douglas, donc au détriment d'autres espèces. On abaisse l'âge des récoltes, on augmente la cadence. Il y a les fameuses coupes rases aussi. Expliquez-nous ce que c'est, ces coupes rases, dont on parle beaucoup et qui font, dit-on, beaucoup de dégâts, à la fois pour les forêts et pour le sol aussi. Gaspard Dalens.
C'est tout simple. Au lieu de sectionner pied à pied, enfin, un arbre, on va faucher, comme un champ de maïs, des forêts, des étendues assez vastes. Hein. Ça peut aller de 1 hectare à plusieurs dizaines d'hectares. C'est une politique qui est interdite dans plusieurs landers allemands, notamment, ou en Slovénie. En France, la coupe rase s'est développée en lien avec les monocultures résineuses qui ont été plantées au même moment. Oui, ça a des conséquences fortes parce que c'est mécanisé, donc on fait venir des engins de chantier, ça tasse les sols, enfin un peu comme dans l'agriculture. Hein. Donc il y avait un podologue qui disait on a besoin de 100 ans en fait pour créer 1 cm de sol, mais on peut le détruire en 10 minutes. Après, ça crée de l'érosion, ça a aussi créé tout d'un coup une température forte, vu que un puits de lumière, et donc ça tue aussi tout le monde fongique, qui est les champignons mycorhiziens, qui sont nécessaires à l'alimentation des arbres. Enfin voilà, il y a plein de conséquences, on va dire, environnementales qui sont peu étudiées. Donc ça, la coupe rase, c'est un élément, mais c'est pas le seul en fait. Hein. Il faut imaginer, et les gens sont peu conscients de ça, mais aujourd'hui dans les forêts, plutôt dans les forêts privées d'ailleurs, disons-le, on utilise plus de 60 herbicides et pesticides dans les forêts. Donc c'est énorme en fait. Et alors que l'Assemblée nationale était en train de débattre sur le glyphosate et que on n'a pas trop parlé en fait de ce qui se passait dans les Landes et de l'utilisation, certes, pas marginale, mais pas non plus anecdotique, mais l'utilisation quand même un peu de glyphosate sur plusieurs centaines d'hectares dans les Landes, quoi. Et donc ça montre un peu la logique dans laquelle on est. Donc c'est des forêts qui sont mises sous perfusion d'engrais, de pesticides, qu'on va ensuite ratiboiser en coupe rase. Donc voilà, c'est un peu cette logique. Certains parlent d'extractivisme forestier, donc c'est-à-dire qu'on est dans des logiques minières de prélèvement de la matière. Et c'est ça qu'il faut aussi déconstruire et rendre visible pour, je pense, nos concitoyens et les habitants de ces territoires, quoi.
Mais alors, comment peut-on utiliser encore des intrants chimiques malgré l'interdiction de ces produits chimiques dans les espaces publics ? Ça veut dire que les forêts, ce ne sont pas des espaces publics ?
La forêt est privée aussi, en grande partie. Hein. Mm-hmm. Faut imaginer que c'est pas n'importe qui asperge de glyphosate dans les Landes. Hein. C'est Henri de Serval qui est un des présidents d'une des plus grandes coopératives forestières françaises. Hein. Donc, ça montre très bien aussi comment certains industriels forestiers sont engagés dans cette fuite en avant technicienne. Hein. Juste sur le glyphosate, faut imaginer que ça a des conséquences pour les autres usagers de la forêt, et notamment les apiculteurs. Les apiculteurs, ils ont fui parfois les champs industrialisés où on sait le taux d'abeilles qui meurent, notamment dans nos campagnes, ils sont allés se réfugier dans la forêt et aujourd'hui, certains apiculteurs nous disent, j'ai perdu dans les Landes, j'ai perdu 10 000 euros de chiffre d'affaires, tout mon miel d'automne était contaminé au glyphosate.
Rémi Barou.
Oui, je crois que l'ONF a abandonné l'utilisation du glyphosate, elle est totalement interdite. Mais ça montre bien qu'il y a un décalage entre une gestion qui est faite par des hommes et des femmes qui sont formés, qui aiment ce travail, et une forêt privée qui... Alors c'est très différent entre quelqu'un qui a quelques arts de bois et quelqu'un qui a plusieurs hectares et qui se tourne vers l'industrie et la production de bois. Mais en effet, il faut pouvoir rationaliser aussi cet aspect de l'exploitation de la forêt privée, qui représente la majorité, ça a été dit, de la forêt française.
Oui,
il se trouve que dans notre pays, la gestion forestière pour un propriétaire privé ou public, qu'il soit une commune ou l'État, elle est financée par la récolte de bois quasiment uniquement, quoi. Il est vrai que la fonction de production, la fonction économique prend petit à petit le dessus sur les fonctions environnementales et sociales. Alors ça peut être très marqué sur certains massifs privés qui ont été cités tout à l'heure, hein, les Landes, le Limousin, le Morvan, où là on est sur des logiques financières qui aboutissent au système des coupes rases. Parce qu'il y a un besoin de programmation. J'investis telle somme d'argent à un moment donné, je veux savoir quand je vais avoir mon retour sur investissement. Donc 30 ans, 40 ans. Et évidemment, tout ça mène à gérer la forêt de manière industrielle, d'adapter la forêt à la demande de l'industrie, du financier. C'est-à-dire que vous coupez les arbres de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, la plupart des essences forestières sont exploitées à un âge qui est inférieur à notre espérance de vie, à nous. C'est ça la réalité, ça dépasse l'entendement.
C'est-à-dire quand on coupe un arbre qui a 30, 40, 50 ans, c'est un adolescent.
Ah oui, il est en pleine jeunesse. On a vu l'évolution. Le pin des Landes était exploité à 60 ans, c'est descendu à 45. Maintenant, on parle de 30. Mais c'est vrai pour à peu près toutes les essences. Et plus vous récoltez les arbres jeunes, plus vous multipliez les coupes rases. Et ça a atteint aujourd'hui un stade où ça a passé le seuil au-delà desquels les citoyens, même s'ils en sont éloignés, ça les marque. Ils voient une intensification, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe, ils le sentent physiquement.
Et moins le sol peut se nourrir, parce que si j'ai bien compris, en coupant les arbres adolescents, ils n'ont eux-mêmes pas le temps de restituer les minéraux indispensables à la terre. Parce qu'ils se nourrissent, mais ils ne restituent encore rien, ils restituent une fois adultes, c'est ça ?
Tout à fait, on va prendre du Douglas, qui est l'essence qui se plante le plus en France. Il lui faut 60 ans pour restituer au sol ce qu'il a puisé pour sa croissance. Quand aujourd'hui vous dites dans le Morvan on le coupe à 40 ans, ça veut dire que vous êtes en train de vider les sols de leur fertilité et donc justifier le recours aux engrais. À part que aujourd'hui, quand on fait des études, par exemple auprès des citoyens européens, qu'est-ce qu'ils attendent de la forêt ? Parmi les premières attentes, c'est la protection de l'eau. C'est essentiel. Moi, je l'ai vu depuis 1995. La plupart des captages d'eau potable où je travaille en Bourgogne ont été rapatriés du milieu agricole vers le milieu forestier. Aujourd'hui, c'est l'une des principales fonctions quand même de la forêt, protéger la ressource en eau. Et c'est vrai que cette industrialisation de la forêt a commencé à porter atteinte à la qualité de l'eau potable.
Donc la qualité de l'eau, les conséquences sur la biodiversité. Je vous propose d'écouter juste cet extrait à nouveau du film Le Temps des Forêts. On va entendre Marc Lajara de l'association Nature sur un plateau, donc le film de François-Xavier Drouet. Et puis on revient avec vous, Rémi Barou.
Tu vois ici, on est au beau milieu d'une plantation monotype, c'est-à-dire que c'est un seul type d'arbre qui a été planté.
il y a environ 20-25 ans. Donc c'est ce qu'on a vu, ces arbres en ligne. Donc on a un arbre, on fait des lignes, des rangées d'arbres, un arbre tous les 3 mètres, ce qui fait environ 1000 arbres à l'hectare. Mais est-ce qu'on peut appeler ça une forêt? La question se pose, hein. C'est bien une plantation d'arbres. Si on tend l'oreille, t'entends les oiseaux, toi? Pas d'oiseaux. Si on regarde le sol, il n'y a pas de vie, il n'y a aucun végétaux qui pousse. La seule chose qu'on a obtenue, et c'était l'objectif, c'est, dans ce cas-là, ce sont des épicéas, c'est d'avoir 1000 épicéas à l'hectare. Et on va appeler ça une forêt. Ça n'a pas du tout les attributs d'une forêt. Si je regarde le sol, j'ai des aiguilles d'épicéas. Si je creuse, j'ai plusieurs années d'aiguilles empilées les unes sur les autres. Elles se sont pas transformées, ça fait pas de l'humus. Pour que ça se transforme, il faudrait qu'il y ait d'autres types d'arbres et que les feuilles se mélangent au niveau du sol. Donc là, on recycle pas le matériau. C'est-à-dire que l'arbre, il pompe dans le sol, il envoie ses aiguilles, elles restent là. Elles restent là et il se passe rien. Pas de vie. Si on creuse, on va pas trouver de lombric ici. Il n'y a rien.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Rémi Barou. Alors le silence, hein, on n'entend plus les oiseaux. Il faut rappeler qu'en France, un tiers d'oiseaux ont été perdus, hein, selon le CNRS. C'est-à-dire, c'est aussi ses conséquences sur la biodiversité. On a ce sentiment que le temps de la nature se heurte à celui de l'industrie.
Oui, mais c'est la question de la valeur de la forêt qui est posée à travers la question de l'avenir de l'ONF. Est-ce que on peut demander à l'ONF de se financer essentiellement par la vente de bois? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la forêt a une valeur aussi dans les services qu'elle rend à la nature? La protection de la biodiversité, c'est un débat. Comment est-ce qu'on peut chiffrer ça? Mais on peut pas demander juste de transformer le bois en argent. De la même manière, et ça fait un peu écho aux débats sociétaux actuellement avec la crise des gilets jaunes et la question des impôts, on peut considérer que cet accès assez libre que peuvent avoir notamment les urbains qui sont de plus en plus nombreux et qui devraient avoir besoin d'aller se promener en forêt, est-ce qu'on considère que juste c'est un service gratuit, c'est une des missions de l'ONF? Est-ce que ça doit être expliquer comme c'est un service que l'État prend en charge, qui donc est financé, forcément, et l'ONF remplit cette mission de pouvoir accueillir tous ces urbains, et aussi les ruraux, qui ont un accès plus rapide et plus facile, mais tous ces urbains dans la forêt. Et ça, je crois que cette question de la valeur de la forêt, elle est centrale dans la manière dont on a de poser l'avenir de l'ONF.
Gaspard Dalens, vous dites dans votre livre que la filière a verrouillé ses entrées et marginalisé ses dissidents. C'est-à-dire, on se retrouve là aussi comme dans le cas où de l'agriculture face à des lobbies.
Oui, ou du moins, en tout cas, une filière forestière bien implantée, avec des associations, des syndicats qui vont souvent dans le même sens. Là, je parle de la forêt privée notamment. Oui. On parle souvent de la forêt privée, mais on ne sait pas trop à qui elle appartient en fait. Et je pense que c'est important de préciser que 3% des propriétaires détiennent 50% de la forêt privée. Souvent on dit, mais la forêt privée est très morcelée, il y a 4 millions de propriétaires. Oui, mais en fait, elle est aussi accaparée par deux grands propriétaires et aussi des compagnies d'assurance, des banques. La Caisse des dépôts et consignations, par exemple, a plus de 200 000 hectares. AXA possède une superficie proche de la forêt de Fontainebleau, 20 000 hectares. Et qui, devinez qui est le premier propriétaire de forêt en Bretagne? Eh ben, c'est une multinationale du négoce, Louis Dreyfus. Donc voilà, on voit qu'il y a aussi une forme d'accaparement d'un bien commun, hein, si on considère la forêt comme un bien commun, par des compagnies d'assurance, des banques qui, du fait du FFN là, dont on parlait, ont vu dans la forêt une source de rentabilité et se sont vraiment très implantés dans les années 70-80 pour faire des monocultures résineuses notamment.
Philippe Canal, faire plier le vivant devant les règles du marché, c'est un petit peu le sentiment qui ressort donc du livre de Gaspard Dalens, et puis des enquêtes, et puis des études, des articles de Rémi Barou ou d'autres, en tout cas, sur ce terrain-là, c'est le marché. Alors ce marché, on peut peut-être en parler, hein, on parle beaucoup du marché asiatique. Nous exportons la matière brute et nous importons donc le produit fini. On en a parlé à propos des cercueils, notamment. Il y a des meubles de grandes enseignes, peu chers, on va pas citer les marques, mais on importe 4 fois plus de meubles qu'on en exporte, des Syrie qui ferme, il y en avait 10 000 en 1965, aujourd'hui 1 400. C'est ce marché-là dont on parle et qui est une des raisons de l'état des lieux des forêts de l'ONF?
Oui, il y a un immense gâchis. La France a eu un grand massif forestier. Elle produit différentes essences, différentes variétés. Et aujourd'hui, une bonne partie du bois qui est récolté est transformée ailleurs. C'est-à-dire que la plus-value sur l'emploi et la plus-value tout court se fait ailleurs. La filière bois, c'est le deuxième poste du déficit commercial de la France, après les énergies fossiles. Donc il y a un immense gâchis humain, social, et quand même pour maintenir cette rentabilité, il y a cette volonté de transformer, et ça faut le dire et le redire, un bien commun, parce que la définition du bien commun, c'est celui qui rend des services à l'ensemble des citoyens. La forêt, c'est la protection de l'eau, c'est la biodiversité, le stockage du carbone, c'est la protection des personnes et des biens en montagne, la fixation des dunes littorales. C'est tout ça, la forêt, ça rend des services à l'ensemble des citoyens. C'est le principal atout pour les générations futures, pour amortir le changement climatique. Mais de par une politique insuffisante en termes de vision publique, de vision du long terme, on laisse ça à un marché. Donc on s'oriente de plus en plus vers des recherches de rentabilité en sacrifiant les fonctions environnementales et sociales et donc en regardant de plus en plus la forêt comme une usine à bois. Et c'est bien tout le débat et nous on tient quand même à alerter les citoyens. C'est la notion du bien commun. Je bénéficie des services des écosystèmes forestiers, donc qui relèvent aussi de ma responsabilité de les défendre. Et nous, on tient à alerter. Aujourd'hui, il y a une trajectoire qui est prise, il y a une dérive qui est prise, qui font qu'on s'apprêterait quand même à sacrifier les fonctions environnementales et sociales sur l'autel de la rentabilité. Et c'est un recul pour l'intérêt général.
D'où le mal-être hein, dont on parlait aussi au début de l'émission, les suicides qu'on a évoqués. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'émission Les Pieds sur Terre. C'était sur France Culture le 10 février 2014.
Le personnel va mal, le personnel va très mal. On a des gens qui se suicident à l'ONF. On est pratiquement à une trentaine de personnes depuis cette grande réforme, quoi. Et le dernier en date, c'est un collègue à nous, Alain. J'étais en forêt et j'ai eu un appel sur mon portable du collègue et qui me disait « Alain s'est suicidé ce matin avec son arme de service dans sa maison forestière, sur son lieu de travail donc. » Et prendre l'arme de service, et je pense que c'était aussi symbolique. Il était dans une équipe, il y a l'année dernière, on nous dit « l'équipe va être dissoute ». Tout simplement. Et ce qui a eu pour effet de casser les binômes, et géographiquement, en ce qui concerne Alain, donc on lui a demandé de sortir de son binôme, et tout ça a fait que Alain, il s'est donné la mort. À ce jour, l'Office national des forêts a reconnu l'imputabilité au service du suicide d'Alain. Ça veut dire quelque part que le geste qu'a eu Alain, c'est à cause de la profession. Je pense que ça, c'était la réforme de trop. Et d'un suicide d'un collègue direct, comme ça, vous n'en sortez pas indemne.
Philippe Canal, aujourd'hui, 2019. On en est où de cet état des lieux, puisqu'on dit qu'en 15 ans, il y aurait eu une cinquantaine de suicides. Je disais plus qu'à France Télécom. Qu'en est-il ?
Aujourd'hui, il y a eu moins de suicides qu'on en a eu dans les années 2010, 2011, 2012, fort heureusement. Pour autant, les suicides, c'est jamais que, au-delà des drames, la partie visible de quelque chose qui est beaucoup plus souterrain, hein, qui est quand même la souffrance au travail due à plusieurs choses. Les charges de travail, vous passez pas de 15 000 emplois à 9 000 pour la même quantité de travail, les mêmes missions sans qu'il y ait des conséquences. Il y a quand même un débordement permanent.
Les plus grandes superficies à gérer hein, pour un forestier, passer de 800 à 1 600 hectares.
Voilà, vous avez ça. Vous avez ce qu'on appelle la souffrance éthique, c'est-à-dire que cette quand même politique commerciale, cette recherche de rentabilité pour équilibrer des comptes, alors que de toute manière, c'est perdu d'avance, vu que c'est les financements de l'État qui sont insuffisants, conduit à une hiérarchie, à demander au personnel à faire des choses que les personnels estiment mal. Ils sont arrivés à l'ONF, la plupart sont des passionnés, ils sont venus là pour protéger, il n'y a pas de tabou à couper des arbres, mais ça doit être concilié avec l'environnement et le social. Et être conduit à faire des choses qu'on estime mal, c'est de la souffrance, il y a une perte de sens, une manque de reconnaissance, et parmi le profil des collègues qui se sont suicidés, très majoritairement, vous avez des agents de terrain, des gardes forestiers, de plus de 50 ans, on va dire élevés au biberon du service public, et c'est ceux qui sont en première ligne. C'est ceux qui voient ce qui se passe directement en forêt, c'est eux qui sont confrontés aux usagers qui sont pas contents, qui se posent des questions. Tout à l'heure, la question a été posée, est-ce qu'il faut protéger la forêt contre l'ONF ? Mais ça, quand vous l'entendez d'une manière ou d'une autre, alors que vous, vous faites votre maximum pour protéger malgré tout, vous essayez de tout concilier pour protéger la forêt dans l'intérêt général, c'est une forte souffrance. Cette souffrance existe toujours aujourd'hui, même si elle se manifeste plus, heureusement, par des drames.
Gaspard Dalens, juste peut-être précision quand même, ce sont des métiers physiquement éreintants. Je pense aux bûcherons notamment. Il y a les gardes forestiers et il y a les bûcherons. Concernant les bûcherons, espérance de vie selon la MSA de 62 ans et demi, mais souvent vers 50 ans, ils ont déjà des corps de vieillards. La machine peut soulager, on pourrait se dire, par rapport à cet état physique, mais au lieu de soulager, elle fait des dégâts sur ces forêts qu'ils portent haut dans leur cœur. Hein.
Oui, alors les bûcherons, c'est un peu différent des techniciens forestiers de l'ONF. Oui, c'est pas le même métier, c'est pas la même dureté, mais oui, c'est quand même rencontrer des bûcherons qui disent qu'à 50 ans, ils peuvent plus courber et ni faire leurs lacets, que c'est leurs femmes, avant d'aller au travail, qui font leurs lacets. Des problèmes d'arthrose, des problèmes de troubles musculo-squelettiques. Enfin, c'est vraiment un métier éreintant. Mais pourquoi c'est un métier éreintant ? Est-ce que c'est juste parce que c'est le travail ? Ou est-ce que c'est aussi parce qu'ils sont, avant tout, même si on dit que ce sont des entrepreneurs de travaux forestiers, ce sont avant tout des tâcherons. C'est-à-dire qu'ils travaillent à la tâche, ils travaillent à la production. Et c'est là, en fait, c'est ce rythme effréné qui les pousse aussi à se blesser. Alors après, est-ce que le fait que des machines arrivent, des abatteuses notamment, va faciliter ou pas le travail des bûcherons ? Une abatteuse, ça fait le travail de 10 bûcherons. Donc ça substitue un peu le travail aussi de certains bûcherons qui deviennent des conducteurs de travaux. Mais une abatteuse, ça coûte 500 000 euros. Donc en fait, on va avoir des nouvelles problématiques, notamment du stress, de l'endettement et donc du stress. J'ai rencontré des bûcherons, enfin des conducteurs d'engins, disons plutôt, qui font les 3-8. Et qui travaillent la nuit avec des phares. En fait, comme les agriculteurs, d'une certaine façon, qui doivent terminer parfois leur moisson très tardivement et tout ça, parce qu'ils sont tout seuls, en fait. Et donc voilà, il y a plus d'équipe, ils sont seuls avec leur machine, et puis un endettement colossal. Et donc, on a moins d'accidents, mais on a plus de pathologies. En fait, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi, lié au stress, lié à des cancers, en fait. Il faut étudier aussi, faire de la sociologie du travail. Là, il y a des sociologues du travail qui se sont penchés là-dessus. Donc, la machine, c'est pas la solution. La solution, c'est de changer de rythme et sortir de ce côté tâcheron, en fait.
Rémi Barou.
Pour revenir sur la crise des 2010, 2011, 2012, avec un taux de suicide très important, il y avait aussi la question de l'isolement. Hein, c'est-à-dire que beaucoup des gardes forestiers, ce qu'on appelait les gardes forestiers, techniciens forestiers et territoriaux aujourd'hui, ils vivent de manière relativement isolée. Je pense que, en effet, la question générationnelle était importante parce que, à ce moment-là, il y avait eu une volonté d'informatisation avec des outils informatiques compliqués à gérer pour des gens qui les maniaient pas trop, qui étaient isolés, donc il n'y avait pas tellement d'aide et qui se retrouvaient sous une pression technologique nouvelle. Et puis, le métier de garde forestier, alors évidemment, on imagine qu'ils sont avec leurs pulls et leurs pantalons verts en train de se promener dans la forêt à observer les arbres, mais il y a beaucoup d'administratifs. Donc il faut remplir des rapports, il faut remplir des fiches, il y a beaucoup de réunions aussi, parce que le forestier que j'ai vu il y a 2 jours, il était sur 12 communes, ça veut dire 12 conseils municipaux quasiment qu'il faut aller voir régulièrement pour les plans d'abattage, pour discuter avec eux. C'est énormément, énormément de tâches en fait administratives et de responsabilités presque politiques, et du coup le métier est très diversifié et surtout très sous pression. Parce qu'il y a des objectifs à remplir. Et donc, il faut, même si on a des plans qui sont en effet sur 10 ans ou 20 ans, tous les ans, il faut aller, on prépare le plan d'abattage, on va discuter, est-ce que le maire est toujours d'accord ? Enfin, c'est quand même un métier très complexe, en fait.
Comment relancer aussi la filière bois ? C'est une autre question, nous l'abordons dans un instant.
Salissait les murs. Et rien ne doit rester. Le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé juste pour mettre des fleurs. cacher les cœurs. Mais l'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours.
De cause à effet, c'est la suite de notre émission sur France Culture, consacrée aujourd'hui à l'ONF, un service public en souffrance, et à l'exploitation donc des forêts françaises qui suscitent atermoiements et dénonciations. Pour mieux comprendre la situation, nous en parlons aujourd'hui avec Gaspard Dalens, journaliste et auteur du livre « Main basse sur nos forêts », un livre édité au Seuil. Philippe Canal, secrétaire général du syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel. Et Rémi Barou, journaliste aux pages Planète du journal Le Monde. Mais tout de suite, le clin d'œil environnement, un festival qui fait du bien. Et nous prenons tout de suite la direction de La Rochelle pour tendre l'oreille du côté du festival Terre et Lettres qui fête ses 10 ans et qui se déroulera du 26 au 29 avril. Bonjour Xavier Decateux.
Bonjour.
Vous êtes président du festival Terre et Lettres. 10 ans de rencontres, projections de films, ateliers, débats organisés entre acteurs, auteurs et un public avide d'en savoir toujours plus sur l'écologie et l'environnement. Alors dites-nous, cet anniversaire, est-ce qu'il sera marqué par des temps forts ?
Oui, des temps forts. D'abord, on a un thème qui est résistance et résilience, pour être bien dans l'air du temps, puisqu'on sait que les menaces sur l'écologie sont de plus en plus graves. Donc il faut absolument résister et résilier pour se préparer à vivre dans un monde où ça sera plus difficile. Donc il y aura des temps forts, il y aura des temps forts avec Francis Allais, le célèbre biologiste, qui va à la fois organiser des ateliers de dessin dans le parc du jardin botanique et sur la structure des arbres, puisque vous savez que c'est un spécialiste de ça.
Quelqu'un de formidable, il faut souligner.
On aura une séquence consacrée à l'océan avec Isabelle Autissier et Didier Gascuen, qui vient de sortir un livre sur le problème de la surpêche. On aura une projection avec Laure Noala, une conférence avec Marc-André Sellos, le biologiste que vous connaissez aussi, et connu pour son livre « Jamais seul » sur les symbioses du vivant. On a aussi une séquence avec des auteurs de bandes dessinées qui parlent d'écologie. On aura notamment Altariba et Keiko qui ont reçu le prix Tournesol cette année au Festival d'Angoulême, au Festival de la BD. Et puis, on a aussi une table ronde avec Jean-Baptiste Vidalou, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Être forêt », qui est sur le thème de la résistance et des territoires qui résistent.
Alors, est-ce que selon vous, Xavier Decateux, les livres ont plus que jamais leur rôle à jouer ?
Absolument, et ça c'est la force du festival depuis 10 ans, c'est notre objet, c'est de faire connaître les livres qui parlent d'écologie. C'est un festival qui est autour des livres, et aujourd'hui nous pensons que le problème de l'écologie, c'est que tout le discours sur l'écologie est trop morcelé et trop superficiel. Donc c'est bien d'avoir le temps d'échanger avec les auteurs qui ont travaillé en profondeur sur des questions. Là, on va voir des auteurs qui ont travaillé sur la question des métropoles, de la métropolisation, comment on peut analyser ça, voir les conséquences que ça a, et re-questionner le modèle économique dominant qui est l'ennemi principal de la vie et de la nature.
Alors, vous-même, Xavier Decateux, face à tous ces enjeux, tous ces débats qui fleurissent, qui se multiplient sur ce terrain de l'environnement, vous êtes plutôt du genre optimiste ou pessimiste ? Adepte de la collapsologie ou partisan des initiatives et des alternatives constructives ?
Oui, je pense que les choses ne sont pas perdues, mais que la situation est quand même extrêmement grave. Donc, on est un peu pessimiste de raison et optimiste de conviction, quoi. Quand les gens prendront conscience de la réalité des choses, parce qu'il y a un discours qui tente à masquer la réalité, à ce moment-là, peut-être on pourra amorcer les changements qui nous empêcheront d'aller vers une catastrophe terrible.
Est-ce qu'il vous semble que les informations ne diffusent peut-être pas suffisamment dans le public, ou en tout cas auprès des citoyens, sur les enjeux, sur les conséquences, sur l'état des lieux ?
Non, je pense qu'on communique beaucoup, mais que on reste à la surface des choses, on n'aborde pas les causes. Et puis surtout, on segmente le discours sur l'écologie, parce que tout se tient. le dérèglement climatique, la biodiversité, tout ça, c'est lié. Alors, on segmente le discours, donc on parle un peu d'énergie, on parle de biodiversité, ensuite on parle de réchauffement climatique. Donc, on dit par exemple que le nucléaire, c'est bon pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc, on arrive à des discours, à une segmentation des discours sur l'écologie qui fait que tout ça n'a plus aucun sens. La seule question, c'est la question de l'écologie, c'est-à-dire quelle est notre relation avec cette nature dans laquelle on vit et dont on fait partie. Et on a un comportement destructeur, on détruit cette nature, et c'est ça qu'il faut changer.
Alors, dans une vie antérieure, Xavier De Cateux, vous étiez, je crois, journaliste à l'agence France Presse, donc au cœur des informations. Quand vous regardez justement votre parcours, quand vous regardez votre engagement aujourd'hui en tant que président du festival Terre et Lettres, est-ce que vous matérialisez peut-être un moment qui a été le déclencheur de votre prise de conscience ?
Et là où j'ai commencé à prendre conscience que le monde tel qu'il fonctionne devenait vraiment un danger, ça remonte à 7 ans à peu près. Je crois que c'est à ma première participation en tant que spectateur au festival Terre et Lettres.
Donc finalement, ce festival, il a joué sur vous.
Absolument. Il m'a convaincu qu'il fallait continuer à informer les gens et essayer de les informer le mieux possible.
Merci Xavier De Cateux. Donc je précise que ce festival Terre et Lettres est à vivre du 26 au 29 avril prochain avec de grands noms de l'environnement. Merci à vous.
Merci.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors la situation, l'ONF, comment relancer finalement la filière bois aujourd'hui, selon vous, messieurs Philippe Canal ?
On a la chance d'avoir des forêts très variées de par les différents climats, méditerranéen, continental, atlantique, et une grande variété d'essences. Aujourd'hui, la tendance, c'est celle de la standardisation pour répondre quand même à des besoins calibrés de l'industrie. Si ces bois, on arrive à mieux les valoriser, parce qu'ils ont plein de qualités, se donner la peine, plutôt que d'aller toujours vers des grosses structures et des méga-scieries, d'aller vers des choses sur de sur-mesure, sur du haut de gamme, mieux valoriser les bois permettrait de relancer cette filière, de relancer l'emploi en milieu rural, c'est important. Tout ce qu'on transformera dans les 50 ans qui viennent existe aujourd'hui. Chercher à transformer la forêt en des essences productives qu'on va couper très vite, c'est une mauvaise trajectoire, une très mauvaise trajectoire, d'abord économiquement. Faisons avec ce qu'on a, nos bois ont plein de qualités, et valorisons-les, mettons ce qu'il faut sur la formation. Il faut être aussi prêt à payer les gens pour le travail qu'ils font. Parce que c'est vrai qu'à l'opposé, cette trajectoire industrielle ne fait jamais que sacrifier l'écosystème et les hommes pour toujours améliorer la rentabilité. C'est une impasse.
Donc repartons aussi sur les circuits courts. Les scieries artisanales, Gaspard Danès, créent 5 fois plus d'emplois par mètre cube que les sites industriels. C'est ce que vous nous dites dans votre livre.
Oui, complètement. En fait, il faut recréer un maillage territorial de tous ces petits acteurs économiques, ne pas tomber dans le gigantisme de soit les, on n'en a pas parlé, mais des grandes usines à biomasse. Nicolas Sarkozy voulait faire une diagonale des scieries, donc avec des mégapoles de scieries. Mais moi, je pense que ce qu'il faut avant tout valoriser, oui, c'est les scieries artisanales. Alors le déficit commercial français au niveau du bois, c'est quand même 6,7 milliards d'euros. À ça, on répond, la filière bois répond et les politiques publiques répondent, il faut mobiliser plus de bois, mais on oublie en fait que ce déficit commercial, il se fait pas en volume, il se fait en euros. Je pense que c'est important de se dire, là, il faut aller chercher la plus-value, comme le disait Philippe Canal, mieux valoriser des vieux bois, mieux valoriser tout un maillage territorial de petits acteurs économiques. Je pense que c'est assez important. Et aussi aller vers des alternatives forestières. C'est là où je voudrais saluer quand même le travail aussi du réseau pour les alternatives forestière qui développe notamment des réflexions autour de la futée irrégulière, c'est-à-dire que au lieu de, on va dire, planter des arbres qu'on va chercher chez un pépiniériste, et ben on favorise la régénération naturelle. Au lieu de faire une monoculture d'arbres tous monospécifiques, en fait, et ben on va développer différentes essences et puis on va développer ce qu'on appelle une futée jardinée, c'est-à-dire qu'on va couper les arbres pied à pied et pas faire une une coupe rase. En fait, voilà, il y a des alternatives qui existent et ce ne sont pas seulement des alternatives, c'est d'ailleurs une part de la solution et qu'il s'agit de valoriser et que les politiques publiques devraient aussi valoriser.
Alors, il faut quand même préciser que la surface de forêt française progresse, hein, Rémi Barou. On possède la troisième forêt européenne, donc finalement, notre forêt, elle se porte bien. On parlait des solutions, alors les énergies renouvelables, l'énergie biomasse, c'est une solution ou c'est pas une solution, Gaspard Dalens?
Là, encore une fois, tout est question de mesure et de taille. Pour moi, l'usine à Gardanne, qui vise à faire non pas du bois, juste du chauffage, mais de l'électricité, et avec 850 000 tonnes de bois par an, dont la moitié va être importée du Canada pendant les 10 premières années, non, ça peut pas être une électricité verte. On va piller les forêts boréales pour faire de l'électricité verte chez nous. Enfin, ça tient pas la route. Par contre, penser des petites unités de centrale communales à petite échelle, enfin revenir au slogan des années 70, « Small is beautiful », et faire des petites unités centrales où on fait pas de l'électricité, mais d'abord directement du chauffage, oui, c'est évidemment une part de la solution.
Alors bien sûr, sur ce thème des forêts, de la situation ou des arbres aussi en France, on pense à toutes ces initiatives, hein, des actions d'entreprise pour favoriser la transition écologique qui replantent des arbres. Alors qu'est-ce que ça vaut, ce genre de geste de la part d'industriels? Est-ce que c'est efficace face au réchauffement climatique, concrètement, où on en est? Et puis on voit aussi fleurir des labels, par exemple PEFC, Programme Européen des Forêts Certifiées. Est-ce que c'est pour rassurer un public? Est-ce que ça a une véritable valeur, Philippe Canal?
Ça amène à un raisonnement où on s'achète des droits à polluer en replantant des arbres, ce dont notre planète a besoin. Et surtout les générations futures, c'est qu'on consomme moins d'énergie, c'est qu'on pollue moins. Je veux dire, on est à Paris aujourd'hui, ça y est, il fait chaud, les gens ont mal à la tête. C'est une dérive qui mène nulle part. Oui, on est dans l'alibi, on verdit tout un discours, mais au-delà, l'écosystème forestier qui amène des tas de services, on le conduit dans une impasse productiviste où il rendrait moins de services à l'avenir. Donc c'est aussi sur l'énergie verte, on en parlait, la production d'électricité à partir de biomasse. Aujourd'hui, du bois, il faut en faire un usage, on en fait un usage bien meilleur. Quand vous avez du bois d'œuvre, que vous faites de la charpente, que vous faites des parquets, que vous faites dans l'architecture, vous vous en servez, vous continuez à stocker du bois avec ce bois qui est mis en œuvre, alors que quand vous le brûlez, vous faites que relâcher le CO2 dans l'atmosphère. Voilà, il faut consommer moins d'énergie. Et là-dessus, nous aussi, on tient à alerter, parce que la France a connu quand même, avant 1850 et l'arrivée du charbon, a connu une époque où le bois était le seul combustible industriel et domestique. Mais les forêts étaient dans un état lamentable. Mais attention, demain, là, on voit tous ces grands groupes qui se positionnent sur la forêt. C'est sur le long terme pour de la production d'énergie à partir de biomasse. À part que notre société est beaucoup plus énergivore aujourd'hui et que ce serait tout à fait désastreux de regarder la forêt sous cet angle-là, quoi. Voilà. Alors qu'à l'opposé, on peut faire du circuit court, faire des chaufferies locales où avec le même réseau, on va chauffer la salle polyvalente, la mairie, le lycée. On dépasse très peu la matière première. On a des vrais emplois, pas des emplois au rabais. Tout ça est vertueux du circuit court, mais certainement pas cette logique industrielle où à l'arrivée, tout ce qui est recherché quand même, c'est... Pour faire du fric, on passe des hydrocarbures à de la biomasse pour faire de l'électricité avec des rendements lamentables. Tout ça n'a pas de sens, c'est le contraire de la transition écologique attendue et nécessaire.
Rémi Barou, dernier point, donc on a compris que le ministère de la transition écologique préparait un rapport, hein, c'est ça, sur l'ONF. Est-ce que les circuits courts, selon peut-être vos premières informations, seraient potentiellement au cœur de ce rapport?
Le rapport porte vraiment sur l'avenir de l'ONF, c'est-à-dire éventuellement poser la question d'externalisation de certaines professions. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des rapporteurs. Il y a 4 ministères qui ont travaillé sur ce rapport, les inspections du ministère de l'Intérieur pour les collectivités territoriales, l'agriculture, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le dernier ministère, c'est Bercy, évidemment, l'économie. Donc après, voilà, ils vont rendre leur rapport qui va être, je pense, un rapport très formaté sur quel organisme, est-ce qu'on doit maintenir un établissement public, enfin un EPIC tel qu'est l'ONF, et pas tellement la politique forestière au sens de la filière bois, qui est une autre discussion, qui est plus géré d'ailleurs par le ministère de l'Agriculture que par le ministère de la Transition écologique, ce qui, je crois, désespère un peu certains syndicats comme le SNUPFEN de Philippe Canal. Tu aurais bien voulu que l'ONF rejoigne l'Agence française de la biodiversité comme d'autres agences. Et évidemment, l'ONF reste à part parce qu'elle a, explique-t-on au ministère de l'Agriculture, la nécessité d'avoir une gestion comptable et une politique économique, si ce n'est rentable, en tout cas équilibrée. Donc, je crois qu'il faut sortir en effet de la logique des chiffres. Souvent, on parle de compensation quand il y a un grand projet d'infrastructure, une autoroute, un aéroport, et on dit, mais c'est pas grave, on va couper 10 hectares là, mais on en remettra ailleurs 20. Mais ça ne suffit pas. Il faut d'abord de la continuité territoriale pour la forêt. Et si on prend l'exemple du projet qui était de Center Park à Roibon, dans l'Isère, il a été retoqué notamment parce que les mesures de compensation, c'était pas de recréer un espace naturel et forestier, c'était plusieurs petites parcelles qui étaient disséminées, qui ne rendaient évidemment pas du tout les mêmes services écologiques. Et le projet a été retoqué à cause de cette raison. Et donc voilà, et je crois qu'il faut revenir sur une gestion globale de la forêt avec tous les services qu'elle rend, y compris économiques, mais pas seulement.
On arrive au terme de cette première partie d'émission. Avant de nous quitter, faites-nous rêver les uns les autres. Emmenez-nous peut-être dans ces forêts françaises que vous aimez. C'est quoi votre florilège, peut-être des arbres que vous aimez le plus, Rémi Barou, vos arbres préférés?
Le chêne reste majestueux et on en a beaucoup parlé avec l'incendie de la charpente de Notre-Dame, évidemment. Mais un charme, je trouve que ça a beaucoup de charme. Un hêtre, c'est magnifique. Et puis, moi, j'aime bien les méditerranéens, hein, les oliviers. Alors, c'est pas forcément de la forêt, c'est peut-être de la culture, mais on en trouve aussi qui sont disséminés, qui se mélangent avec d'autres essences et c'est magnifique.
Gaspard Damiens?
Moi, j'ai un petit faible pour les forêts de hêtres, de montagne, notamment sur le Vercors ou voilà, sur les contreforts du Vercors, toutes ces choses-là, ouais, j'aime bien.
Philippe Canal?
Moi, je suis originaire des Pyrénées-Orientales. Alors, je vais parler du pin accroché qui pousse dans les hauts cantons en Cerdagne. C'est quand même un guerrier de la nature qui vit sur des sols gelés une grande partie de l'année, dans le vent, avec des sécheresses terribles, et qui nous rend tous ses services de bois, mais aussi de paysages magnifiques, de skier au milieu des arbres, voilà, qui fixe les sols, qui abrite toute une faune, toute une flore, voilà, dans des conditions très très difficiles, et qui rend ses immenses services dans le silence.
Gaspard Damiens, je renvoie nos auditeurs bien sûr à votre livre « Main basse sur nos forêts », édité au Seuil. Vous restez avec nous, nous poursuivons sur ce thème des résistances civiles avec vous, Rémi Barou. Rémi Barou, alors des zones de résistance se font aussi jour contre des projets censés favoriser les énergies renouvelables. L'histoire se passe à Saint-Victor et Mellevieux en Aveyron, c'est ça?
Il y a une histoire à Saint-Victor et Mellevieux. Mmh. Et il y en a une dans la commune qui s'appelle Le Croc, oui. Et qui est de l'autre côté du Larzac, vers la Couvertoirade, enfin au lieu historique des luttes de paysans du Larzac.
Et oui, dans les années 70, Gardarem loue Larzac.
En fait, ils ont une grande tradition, parce qu'il y a eu évidemment la bataille contre le projet d'extension du camp militaire, projet qui a été abandonné après l'élection de François Mitterrand, mais ça a été une des naissances, on va dire, des résistances à la fois sociétale, militante, et à la fois paysanne, sur le Larzac. Après, il y a eu d'autres luttes, hein, notamment des luttes très vives contre les projets d'exploitation du gaz de schiste, dans cette même région. Et là, il se retrouve avec un projet d'une centrale photovoltaïque de 400 hectares, donc c'est énorme, 400 hectares. Ce serait la plus grosse centrale française.
Pour donner une idée, je crois que c'est 550 terrains de foot.
Ou l'équivalent de deux fois l'état de Monte-Carlo, pour ceux qui vont souvent à Monte-Carlo et qui font pas de football. Du coup, 400 hectares, c'est un projet surdimensionné. Alors, la complexité de ce dossier, c'est que il est vendu, il est présenté par le porteur de projet, qui est une société des environs de Montpellier, qui s'appelle Arcolia, spécialisée dans les énergies renouvelables, comme au projet vertueux, puisque forcément, il accompagne la transition énergétique. Et il promeut le photovoltaïque, comme d'autres promeuvent l'éolien, à juste titre, puisqu'il s'agit de remplacer l'énergie fossile et de changer le mix énergétique français. Mais tout est encore problème de dimension. 400 hectares, c'est-à-dire qu'on est dans une supra-industrielle, même si c'est sur un domaine de chasse qui fait 1000 hectares, c'est surdimensionné pour les gens, ça pose le problème aussi des relations donc de lignes à haute tension, très haute tension, parce que ce parc il doit bien être relié à la distribution et à la circulation du courant. Donc c'est complexe parce que ces agriculteurs...
Donc ce projet c'est Solarzac, c'est ça, on l'a appelé Solarzac, voilà. Et qui va comprendre quoi sur ces 400...
Alors il y a plusieurs scénarios, mais le scénario prioritaire c'est du panneau photovoltaïque sur 400 hectares. donc un océan de panneaux photovoltaïques sur une terre où, alors on va pas dire qu'il y a beaucoup d'habitants parce qu'il y en a pas, donc mais c'est
un territoire qui a déjà beaucoup d'éoliennes, qui a déjà beaucoup de d'énergie renouvelable.
C'est la problématique de où est-ce qu'on met les choses qui peuvent être pensées comme nuisibles. On les met là où il y a pas beaucoup d'habitants, là où la densité est faible, et du coup ces territoires ruraux se retrouvent à récupérer tous les projets qui vont servir et qui auront une sorte de bien commun et qui vont servir à la société, aux villes d'à côté. Mais il y a ce déséquilibre. Je vais vous faire une citation du maire de Saint-Victor-et-Melvieux qui, lui, doit accueillir un super transformateur qui doit justement connecter les projets futurs comme cet éventuel parc photovoltaïque de demain et des dizaines, voire des centaines d'éoliennes qui donc seraient connectées au réseau THT, très haute tension. Et il dit... On a une petite collectivité qui est écrasée de nuisances pour apporter de l'énergie partout. On est bien content que les autres aient de l'énergie, mais il faut répartir les nuisances aussi. On voit les services publics disparaître. On a tous les inconvénients d'être isolés sans en avoir les avantages petit à petit. Si on continue à traiter les territoires de cette manière, c'est au niveau national que le problème va se poser. Et le maire Jean Capel, il dit, voilà, nous, on parce que on n'est pas nombreux, on récupère tous ces projets pour lesquels d'ailleurs... éthiquement et presque politiquement, ils sont pour la transition énergétique sur le Larzac, ils sont tous pour remplacer l'énergie fossile, ils ont lutté contre le gaz de schiste, et ils veulent qu'on en sorte.
Il y a des figures emblématiques, comme par exemple José Bové, un pro-énergie renouvelable, mais là, il se retrouve lui-même face à un dilemme, finalement.
Alors, sur ce Larzac, il est très contre, il mène la bataille de manière très volontaire avec les anciens du Larzac et puis tous les nouveaux agriculteurs, les éleveurs, c'est de l'élevage hein, là-bas, c'est de la brebis, c'est le roquefort, et puis ce parc va probablement nuire aussi à la biodiversité, puisque il y a beaucoup de rapaces qui vont voir leur aire de chasse se transformer. Bon, tout ça implique des transformations qu'il faut réfléchir, et la question du dimensionnement, elle est essentielle. Parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu de résistance si on avait dit on va faire un parc d'un hectare. La question, elle est celle-là. Et puis, elle est aussi sur est-ce qu'il faut trouver d'autres supports ? Bien sûr qu'il faut du photovoltaïque si on veut sortir du fossile. Mais les surfaces de parking de supermarchés, ils ont fait des études. Enfin, il y a de quoi recouvrir des centaines, des milliers d'hectares. Le tout est de choisir des schémas qui soient à la fois rentables, mais à la fois qui soient dans l'ensemble de sa conception utile pour tout le monde.
Et en sachant que, si j'ai bien compris, ce Solarzac se situerait sur des sites Natura.
Ce sont des sites Natura, il y a beaucoup de services donc de biodiversité. Alors le promoteur, Monsieur Bonhomme, Laurent Bonhomme, il explique, mais oui, mais justement, on va mettre des panneaux photovoltaïques, donc les brebis, elles pourront aller à la pâture à côté, les animaux pourront circuler sous les panneaux. Enfin, la problématique, c'est... est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre 400 hectares de panneaux à cet endroit-là, alors que d'autres espaces sont disponibles ? Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à l'acceptabilité, même si le mot est pas toujours heureux, mais de ces projets photovoltaïques, il y a aussi beaucoup de mouvements de résistance contre les éoliennes. Il y a certes des nuisances potentielles, il y a des nuisances qui sont esthétiques, il y a des nuisances sanitaires sur lesquelles il faut travailler, par rapport à des éléments de la biodiversité comme les chauves-souris. Ça peut être la même chose en mer, mais le tout est un problème de dimensionnement. Un des problèmes qu'on a sur ces grands projets, qu'ils soient d'énergie renouvelable, mais ça peut être des projets de transport, comme des aéroports, comme des tunnels ou des autoroutes, je crois qu'il faut travailler très en amont d'un projet pour que l'ensemble des citoyens puissent s'exprimer, plutôt que d'attendre que le projet soit quasi ficelé et qu'il y ait une sorte de scénario à prendre ou à laisser. Auquel cas, les tensions sont vives, et là, en effet, il peut y avoir des focalisations, voire des créations de résistance comme des ZAD. Parce que, tout simplement, le débat n'a pas eu lieu en amont, avant même que le projet soit définitivement défini.
Merci Rémi Barou, on va suivre tout ça avec vous, bien sûr. Et dans vos articles, ceux qui existent déjà à retrouver sur lemonde.fr, et puis ceux à venir, bien sûr, et via notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous pouvez télécharger l'émission, la réécouter, nous suivre sur Twitter, et puis sur la page Facebook également de l'émission. Dimanche prochain, rencontre avec des artistes qui investissent des jardins pour y offrir un spectacle en plein air et en osmose avec la nature. Nous serons avec le musicien-compositeur Patrick Scheider, l'acteur Michael Onsdahl et le défenseur de la biodiversité Alain Bougrain-Dubourg. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Restez à l'écoute, Être et Savoir et Louise Touré.